Justine Triet est une amie très chère. J'ai joué dans Sibylle, son dernier film, comme d'ailleurs dans tous ses films précédents. J'ajouterais même que j'ai été blessé sur l'un de ses tournages un peu, que ma fille joue elle aussi dans ses films et que ma compagne enfin est sa meilleure amie. Voilà pour le disclaimer, l'avertissement déontologique préalable. Je suis à la fois la personne la mieux et la moins qualifiée pour parler de ses films. Je touche même un peu d'argent de l'Adami quand il passe à la télé. Je me dois cependant d'évoquer Sibylle pour une raison précise, un paradoxe qui m'étonne moi-même. Justine Triet est une amie et je la tiens dorénavant pour une redoutable adversaire. J'arrivais à Paris quand je l'ai rencontrée, elle sortait tout juste des Beaux-Arts, j'étais fatalement provincial et j'ai été immédiatement jaloux de sa puissance artistique. Elle a été la première de notre groupe d'amis à connaître un petit succès. Elle a vendu une vidéo à Beaubourg, trouvé un producteur, fait un film au Brésil. Mais ce n'était pas sociologiquement que j'étais jaloux d'elle, j'étais jaloux plus intimement de l'artiste qu'elle était. Artiste, nous l'étions tous alors, mais c'était peut-être la seule d'entre nous qui en possédait à ce point l'aura. À quoi cela tenait-il? C'est difficile à expliquer. Thomas, qui sortait lui aussi des Beaux-Arts, était par exemple de très loin le plus charismatique de nous tous, Virgile le plus mystérieux, quand j'étais, moi, modestement, celui qui parlait le plus vite. Mais Justine était celle dont les œuvres avaient toujours l'air d'être, pour le dire de façon désagréable et vengeresse, plus intelligente qu'elle. Ce qui est peut-être le grand secret de l'art et l'unique raison d'en faire, exprimer quelque chose qu'on n'arriverait pas à dire autrement, articuler des mots nouveaux, des concepts inédits. Et Justine, qui n'était pas la plus bavarde d'entre nous, ou plutôt celle dont le bavardage n'atteignait jamais la morgue théorique, l'arrogance désinhibée d'une autre, se trouvait à chaque fois à fabriquer les objets les plus parlants qui soient, des objets dont on ne se lassait pas d'interroger la profondeur cachée. Médiatiquement, c'est logiquement qu'elle est devenue celle d'entre nous dont on parle le plus, et celle qui figura cette année en sélection officielle à Cannes. Je n'avais pas encore vu Sibylle au moment du palmarès, mais j'ai été mortifié qu'elle ne gagne pas la Palme d'Or. J'ai fini par aller voir le film, et j'y ai retrouvé intacte ma jalousie d'apprenti écrivain devant la puissance artistique de sa réalisatrice, quelque chose que ne m'avait fait ni la bataille de Solferino, trop délibérément foutraque, ni Victoria, trop délibérément formatée. C'est la première fois depuis très longtemps que je suis sorti de la salle sans pouvoir dire à quel genre appartenait le film que je venais de voir, ni comédie, ni drame, ni tragicomédie, ni thriller psychologique, à la limite auto-thriller conviendrait. C'est l'histoire d'une psy qui devient la romancière de sa propre vie, car le génie du scénario et du montage permet de se formuler l'hypothèse vertigineuse que ce que nous serions en train de voir, c'est l'adaptation du propre roman de Sibylle, ce qui signifierait que la réalité n'est plus court dans l'univers du film, qu'il n'y ait plus rien derrière la fiction, comme le démontre d'ailleurs une citation très shakespearienne de Zemeckis avec un miroir. On se souvient alors que Sibylle, c'est le nom de la fille de Lacan et que rien ne ressemble plus à la psychanalyse lacanienne que le montage si libre, si délirant, si signifiant du film de Justine Triet. Sibylle, c'est l'histoire hallucinante et géniale d'un renoncement raisonné au réel, c'est l'histoire d'une femme, Virginie Efira, dans son rôle le plus terrible, qui, pour reprendre le contrôle de sa vie, renonce à sa conscience et qui finit, dans une ivresse nietzschéenne finale et stupéfiante, par rompre volontairement avec le fantôme gigantesque de son ex, le père de sa fille, tandis qu'elle regarde celle-ci comme la prochaine victime, peut-être, de ce projet de déliaison qu'elle a décidé de mener à son terme, par-delà toute morale, religieuse ou terrestre. Sibylle, c'est le portrait troublant d'un monstre ou d'un psychopathe, c'est le visage ambigu, fascinant, limpide, d'une sorte de décadence. Comme il y a eu un American Psycho, le film pourrait s'appeler French Psycho, psychanalyse et littérature étant l'équivalent français de la finance et de la gloire. Si mon œuvre littéraire a d'ailleurs un sens, ce sera désormais de réfuter les conclusions de Sibylle, d'apporter un démenti qui soit à la hauteur, esthétiquement et métaphysiquement, de cette proposition diabolique.